Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à un programme spécial de ce 25 décembre. Joyeux Noël à toutes et à tous. Et on commence ce programme avec la chorale française de Melbourne et je passe l'antenne à notre collègue Marianne Murat.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Notre invitée aujourd'hui, c'est Emma Rolando, une Française originaire du sud de la France qui est venue en Australie il y a 15 ans et qui aujourd'hui a fondé une chorale française. Bonjour Emma.
Bonjour Marianne.
Comment ça s'est passé la création de cette chorale ?
Alors en fait, ça fait à peu près un an que la chorale est créée. Nous avions une chef de chœur, Sylvie Parment, qui a créé l'entreprise en janvier l'année dernière. J'ai rejoint la chorale en tant que participante et je me suis impliquée dans l'organisation au fur et à mesure des mois. Et Sylvie est malheureusement rentrée en France définitivement le mois dernier. Et donc, ma collègue Nez Hardy et moi-même avons décidé de reprendre l'entreprise.
Et vous savez d'où était née cette envie de créer cette chorale ?
Il y a eu beaucoup de demandes, je pense, ces dernières années. Les participantes avaient émis le souhait, justement, de pouvoir se rencontrer et de chanter ensemble. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas de chef de chœur. Il n'y avait personne qui pouvait, justement, coacher tout ça. Et donc, Sylvie Parment était impliquée dans la sphère musicale, on va dire, de Melbourne, dans le sens où elle faisait des cours de musique dans les écoles, je crois. Elle a été mise en contact avec une des participantes. Et elle a décidé, donc, de créer cette chorale. Donc c'était le but, était vraiment de rassembler la communauté française et dans le but de pouvoir chanter, s'amuser, se retrouver en français.
Et ça a fonctionné, l'engouement a été immédiat.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on était environ 17 quand on a commencé, donc beaucoup d'intérêt. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure de l'année, la communauté française, beaucoup de participantes ont eu tendance à rentrer un peu en France, en vacances, etc. Donc, on a eu un trimestre où on avait peu de participantes, malheureusement. Mais vers la fin de l'année, beaucoup sont revenus et on a pu faire notre première représentation à l'école de Brunswick Primary. Et on était environ, oui, je pense qu'on était environ une quinzaine.
Vous parlez de participantes. Il n'y a pas d'hommes ?
Pas pour l'instant. On aimerait bien qu'il y ait des hommes qui nous rejoignent, mais on est tout à fait ouvert à avoir des hommes. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'était que des femmes.
Et alors, comment ça se passe ? Est-ce que vous vous retrouvez toutes les semaines, tous les mois ?
Tout à fait. Alors, donc, on se retrouve toutes les semaines. Nous avons deux groupes séparés. Les sessions sont des soirs différents dans des quartiers différents de Melbourne, mais nous chantons les mêmes chansons. Donc, nous avons un groupe qui est à Prahran, donc c'est le plus grand groupe. On se retrouve les jeudis soirs entre 19h et 20h30. Et nous avons un autre groupe le lundi soir à Brunswick, qui est pareil, même heure. Et puis, eh bien, on s'échauffe, on se retrouve, on papote un petit peu, on s'échauffe, et ensuite on chante notre répertoire.
Et les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés par vous rejoindre, on peut intégrer la chorale en cours d'année comme ça?
Absolument, absolument. Donc en fait, on accepte tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir chanter forcément. Il faut juste être un petit peu à l'aise avec le français parce que on parle toutes plus ou moins français pendant nos sessions. Mais si vous n'avez jamais chanté, mais que vous avez envie d'essayer, ça vaut vraiment le coup de venir et puis d'essayer, de voir ce qu'on peut faire. On avait plusieurs de nos participantes qui n'avaient vraiment jamais chanté et à la fin de l'année, on s'est retrouvés à toutes chanter ensemble des chansons super et elles étaient vraiment impressionnées.
Donc, on peut être australien, avoir des notions de français, australien-australienne, avoir des notions de français et vous rejoindre. Je voulais
Absolument.
vous demander, vous avez à plusieurs reprises évoqué votre répertoire. C'est quoi votre répertoire, votre style musical?
Alors notre style, on chante des chansons françaises. On a chanté à cette représentation Battez-vous du groupe Brigitte. On a chanté Les Champs-Élysées. On a chanté également Ebam de Mantissa. On a aussi des petites comptines aussi qu'on utilise en guise de d'échauffement aussi qu'on a chanté comme Vent frais, Vent du matin. Voilà. Donc c'est notre petit répertoire et on a plein de projets pour l'année prochaine. On est aussi ouverte à toutes les recommandations, tous les souhaits de nos participantes. On a un groupe où tout le monde partage justement leurs souhaits, les chansons qu'elles aiment et que tout le monde aime. Et puis on vote un petit peu sur les chansons qu'on aimerait bien chanter.
Vous disiez chanter devant un public. J'imagine que quand vous vous retrouvez 2 fois par semaine, vous chantez entre vous. Le public ne vient pas voir vos
Non.
entraînements. Mais l'idée, c'est donc ensuite de se reproduire comme vous l'avez fait à Brunswick récemment.
Tout à fait, oui. Donc nous avons déjà plusieurs représentations qui font partie de la communauté française. En fait, on est déjà en pourparlers avec l'organisateur de la fête de la musique. On parle aussi, on est en contact avec l'Alliance française pour le Christmas Market l'année prochaine. Éventuellement peut-être Bastille Day. Donc on est en contact avec ces organisateurs et on espère pouvoir faire partie de ces événements à partir de l'année prochaine, bien sûr, oui.
Et donc le mot de la fin, si on veut entrer en contact avec vous, on fait comment?
Pour rentrer en contact avec nous, nous avons une page Facebook qui s'appelle Melbourne French Choir. Donc, faites une recherche sur Facebook et une fois que vous nous aurez trouvé, vous pouvez rentrer en contact avec nous et nous envoyer un message. On vous répondra et on vous ajoutera à notre petit groupe avec plaisir.
Là, c'est bientôt les vacances scolaires avec les fêtes de fin d'année. J'imagine que vous vous arrêtez quelques semaines. Quand est-ce que vous reprenez?
Oui, nous reprenons le 29 janvier au début du premier trimestre.
Merci beaucoup, Emma Rolando.
Je vous en prie.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Et voilà, c'était Clara Luciani qui nous interprétait Nu. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le reste de l'émission.
SBS Audio is supported by advertising.
Momentum Energy is 100% owned by Hydro Tasmania, who in a single hour make enough renewable energy to fill 400,000 bathtubs with freshly popped popcorn, or spin 200 million disco balls all at once, or power an army of 10 million robot vacuums ready to take over the world. Or just help keep your leftovers cold. Either or. For a power company backed by someone who can do all that, switch to Momentum Energy. 100%.
Vous êtes avec SBS French.
Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Je suis dans nos studios de Melbourne avec Johanna et Ben Jean-Louis de la boulangerie-pâtisserie de South Levin à Malvern East. Bonjour Johanna, bonjour Ben et bienvenue dans nos studios.
Bonjour.
Bonjour Audrey.
Johanna et Ben, vous avez des racines mauriciennes. Je crois que Johanna, vous avez entre autres étudié à Paris. Parlez-moi de votre parcours avant de South Levin. Qu'est-ce qui vous a donné le goût du pain, des gâteaux?
Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu hospitalité. J'ai commencé mes études en Angleterre, culinary art à Southampton. Après, je suis venue joindre mon frère à Melbourne 2007-2008, je m'en souviens plus, dont j'ai étudié la pâtisserie. Après, j'ai travaillé un peu à Melbourne, pas un peu, je travaillais dans les restos, dans les cafés, et graduellement, getting promoted and running a pastry. Et I found a new love for pastry rather than the kitchen. 2017, on part en France, et là, je regarde un petit peu les écoles, et là, j'arrive à Bercy. Et là, je vois EBP, École Boulangerie Pâtisserie de Paris. Et là, je rentre, je commence à parler avec les dames. Et là, je dis, OK, c'est pas mal. Après, je fais une application comme ça. Et après, ils me disent, j'ai une lettre saying that I've been accepted. And then I was like, oh, okay, so basically I work hard, save my money, and then next year I go back in France, study for 1 year, full training in Paris. Yeah. And then the teacher, I remember, said to us, du moment vous commencez à faire le pain, vous allez tomber amoureux. Et c'est vrai, c'est une science, c'est extraordinaire de travailler avec le pain. Et la viennoiserie, obviously.
Et puis, vous êtes retournée en Australie et j'imagine qu'ouvrir votre propre boulangerie, pâtisserie, c'était un rêve que vous aviez?
J'ai toujours rêvé d'avoir un petit resto ou café, mais boulangerie, c'était un peu... Je sais pas. Et après, je suis pas retournée directement en Australie. Je suis retournée à Maurice et là, je travaille un petit peu dans une French bakery up north of the island. Et au moment de retourner en Australie, il y a Covid. On est resté, moi et Ben, on est resté à Maurice avec la famille. Et après 2019 ou 20, je me souviens plus. On est retourné en Australie et là, j'ai commencé à travailler à Prahan Market. J'étais head pastry chef d'un petit shop qui s'appelle Sweet Greek. Et là, je travaillais pendant un an et quelques. Et un jour, Ben me dit, bon, on va faire quoi là? Je dis, what do you mean? Are we opening that business? Yes or no? And I was like, okay, let's do it then. C'est lui qui m'a motivé à le faire en général. Parce que moi, j'étais, okay, I'm good. Why would I get that stress of having a business and all that? And then Wally was like, let's do it. And then we start from there.
Une affaire de famille, donc vous avez des rôles différents, j'imagine. Qu'est-ce que vous faites chacun?
He is a marketing, the Fita, because he's the Eterna and Fita. He's all about fixing everything, the maintenance and paperwork, admin. Me, I'm more about the product development, the production and managing the staff.
Et comment c'est travailler ensemble, frères et sœurs? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous avez des conflits? Comment ça se passe?
Oh, c'est...
Well, il y a toujours des tiraillements, tu vois, là, il y a beaucoup... des arguments, mais on fait travailler des trucs.
Yes, it's good. We get along really well because he knows me, I know him. Yeah. So, yeah, it's, I think, really a good team. Because, like, when he knows his stuff, I know my stuff. When I say to him, please do this, he will do it. And when it comes to budgeting and all that, et je vais lui demander, et là, du coup, il va dire, no, let's do this way. On va le faire comme ça, on va faire comme ça. S'il y a une bonne entente, c'est du moment qu'il y a des compromis de sa part et des compromis de ma part, et ça marche. C'est pas tout le temps facile, mais je pense que pendant, ça fait un an qu'on est ouvert, Je pense que, ouais, ça marche entre nous. Ça n'affecte pas notre relation frère-sœur.
Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez à votre menu? Donc, vous avez du pain, des viennoiseries, des gâteaux. Qu'est-ce que vous offrez?
J'essaie d'emmener Paris à Malvenist. Même le décor, les chaises, c'est très parisienne. On essaye de faire des gâteaux en française, des gâteaux françaises, mais avec une petite touche australienne. Parce que il faut pas oublier aussi qu'on est en Australie, les Australiens aiment bien se retourner à leur base, à leur basic. On n'essaie pas de faire des trucs trop fancy, trop, je sais pas, comme les entremets, les macarons, parce que on a essayé, on a vu que ça ne marchait pas, les Australiens partent toujours ce qui est bien. À leur origine. On fait des spéciales françaises comme les galettes de roi. On leur fait goûter. Ils adorent. Et petit à petit, on introduit, on les éduque. Ça, c'est ça. Ça vient de telle région, la cuisine terroir en France, parce que je passais beaucoup de temps en France aussi. Et baguette de tradition, c'est un des big sellers. La viennoiserie. Comment vous dire ça? Ça, j'ai pris 3 ans pour développer ma pâte à viennoiserie parce que il faut. Quand j'étais en France, je travaillais avec la farine française. Et en revenant, parce que le lait, tout ça, c'est différent, c'est une science. Et en retournant de France, en retournant de l'île Maurice, j'ai dû importer le beurre de Belgique, de France, même servir les beurres australiens, Nouvelle-Zélande, et pour avoir notre produit final. Et aussi, on fait quoi, Ben? Beaucoup de sandwichs. Les Australiens, ils aiment le pie et leur sausage roll. Du coup, on fait une très bonne pâte feuilletée à la française et on met le sausage roll dans la pâte à feuilletée française. Voilà.
The best of both worlds.
The best of both worlds. Yes, exactly.
Et donc, un menu très français, mais j'ai vu que l'an passé, vous aviez un week-end, un événement spécial avec des plats de Maurice.
Oui, oui.
Racontez-moi, donc, qu'est-ce que vous avez servi durant ce week-end-là?
On fait ça 3 fois par an. Là, la prochaine sera en mars. En mars, pour la fête nationale de l'île Maurice. Et du coup, on a fait les pâtisseries mauriciennes. Parce qu'il faut savoir, il faut faire savoir aussi, parce que la pâtisserie mauricienne est très influencée par la pâtisserie française. On avait fait, génoise. On avait fait on a travaillé en collaboration aussi avec une autre pâtisserie mauricienne qui se trouve à Limbrook. Ça s'appelle Wistakers. Eux, ils font la pâtisserie mauricienne. Et là, j'ai dit, on va travailler ensemble. Et elle se dit, ah ouais, pourquoi pas? Et it worked really well. It was a great success. We sold out really quickly. Et c'était une très belle ouais. expérience.
On va le refaire
en mars.
Pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment en pâtisserie mauricienne, donc qu'est-ce que vous aviez au menu?
Alors, il y a trois items qui sont très populaires dans la pâtisserie mauricienne. Un truc qui s'appelle Puits d'amour. C'est un genre de tarte sucrée, très sableux. Et on a une crème diplomate qui est poché et avec du coconut. Et avec, des fois, on met la gelée de fraises ou de framboises ou de cherry. La deuxième, c'est napolitain. C'est, encore une fois, deux biscuits sandwich together avec la confiture de framboise. Après, on met une glaçage rose au-dessus, et ça aussi, c'est très populaire. Et la troisième, je pense que c'est tarte banane. Tarte banane. Et on fait cuire les bananes très caramélisées. Après, on met in the tart, and then we just bake it. It's really good. Really, really good. Yeah.
Donc, vous avez été sold out, ça a été très bien accueilli. Est-ce que vos clients étaient surtout des gens de Maurice? Il y avait beaucoup d'Australiens aussi qui étaient intéressés. J'imagine qu'ils ne s'y connaissaient pas beaucoup.
Oui, il y avait aussi beaucoup d'Australiens.
Il y avait beaucoup d'Australiens qui veulent goûter, veulent essayer. C'est quoi ça? Vous voyez, il y avait du pâté poisson, pâté viande.
Poulet.
Pâté, poulet, tout ça. Mais
du feuilleté, custard. Ouais. Yeah.
Ils voulaient essayer.
Ils ont... Ils ça ont a aimé. Été...
Ouais. Ils ont aimé.
Ils ont vraiment aimé. Et... ils m'ont demandé c'est quand ils nous ont demandé c'est quand la prochaine, pas seulement les Australiens, il y avait aussi les Indiens.
Je sais parce qu'il y a une grosse communauté indienne à Maurice aussi, donc j'imagine.
Oui, hindou, oui, il y a une grosse communauté hindou, musulman, on est très multiculturel et c'est ça qui fait la beauté de l'île Maurice, très multiculturel. Là, bientôt ça va être comment Chinese New Year, on célèbre ça aussi, comme la Pâque, comme le Eid, comme le Ramadan, on célèbre, et comme Diwali, on célèbre et on mange.
Et vous disiez donc que le prochain événement mauricien, ça va être en mars.
Oui, oui, en mars. On va faire encore plus parce qu'il y a des gens qui sont venus de Geelong, de Pointe-Cook, et quand ils sont venus, c'était ça, it was sold out, et là, ils n'étaient pas contents. Hein. Là, on va faire encore plus, mais... La dernière fois, on a fait plus de 2000, presque 3000, quoi. Individuels, gâteaux, des trucs salés, et à 11h, we were sold out.
Yeah. Donc, on va garder un œil là-dessus. Alors, j'imagine qu'en vous suivant sur Instagram, on peut être au courant à chaque fois que vous répétez le week-end mauricien, donc pour savoir exactement c'est quand.
Yeah, yeah. On va mettre tout ça sur Insta, yeah.
Donc, on rappelle, de ça, le vin se situe à Malvern East. C'est tout près du centre commercial Chadston. Merci beaucoup, Johanna et Ben, d'être venus nous visiter en studio à Melbourne.
Oh, thank you so
Merci
much.
Beaucoup.
Thank you so much for welcoming us. It was an honor. We're very happy to be here.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h ou à tout moment en ligne.
Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français, on va parler de quelque chose d'essentiel à la vie. Vous allez voir, ça tourne autour des champignons. On a le plaisir d'avoir le docteur Camille Truong avec nous. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
C'est intéressant de parler des champignons. Champignons, c'est, je l'ai dit, essentiel à la vie. Expliquez-nous pourquoi ça l'est.
Alors d'abord, il faut savoir que les champignons, c'est un règne qui est à part des animaux et des plantes. Traditionnellement, D'accord. pendant longtemps, on a considéré que les champignons étaient des plantes, parce qu'ils ne bougeaient pas. Mm-hmm. Mais comme probablement beaucoup de gens ont remarqué, ils ne sont pas verts, donc ils ne font pas de photosynthèse.
D'accord.
Et ils sont vraiment dans un règne à part. Comme ils ne font pas de photosynthèse, ils ont besoin de se nourrir d'une autre manière. Mm-hmm. Et la façon dont ils se nourrissent peut être très variable. Donc il y a certains champignons qui... se nourrissent de la matière en décomposition. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les décomposeurs, ou qu'ils font le recyclage, en fait, de la matière organique morte.
D'accord.
Donc, les feuilles mortes, les carcasses d'animaux. Et c'est pour ça que c'est un rôle très important dans la nature, pour, en fait, recycler toute cette matière morte et la retransformer en matière vivante.
Est-ce qu'on sait quel est le plus vieux champignon qu'on ait pu trouver sur cette planète? Est-ce qu'il y a des champignons qui datent de l'époque des dinosaures? Est-ce que c'est des survivants? Justement, ce qu'on parle beaucoup, les cockroaches, comme on dit, c'est des survivants, les crocodiles, c'est des survivants de cette ère-là. Est-ce qu'il y a des survivants de cette époque-là, même avant, chez les champignons?
Alors oui, les champignons, ils sont très anciens, je dirais même bien avant les dinosaures.
D'accord.
Et on pense d'ailleurs que en s'associant à des champignons, c'est ainsi que les plantes ont réussi à coloniser la terre ferme. Donc, on sait que les plantes, à l'origine, étaient aquatiques. Et c'est ainsi qu'elles ont réussi à coloniser le sol, en fait, la terre ferme. Donc, ça date de aussi loin que remonte l'évolution des plantes.
Et depuis quand la recherche sur les champignons est active? Parce que c'est votre nerf de la guerre pour vous, j'ai tenté de dire. C'est ce que vous faites au jour le jour. On va parler de votre carrière après ça. Mais depuis quand on fait de la recherche et depuis quand on a compris le fait que les champignons sont si essentiels à la vie?
Alors, je pense que la recherche sur les champignons, à la base, était faite par des botanistes. Donc, comme on pensait que ça faisait partie des plantes. Et donc, je dirais que vraiment, ça a démarré ce qu'on appelle la taxonomie classique, donc la description d'espèces, aux alentours de 1700, 1800, un peu comme les plantes.
D'accord,
en fait.
OK.
Il y a eu plusieurs grandes avancées dans la recherche. La première, ça a été le microscope. Parce que évidemment il y a les champignons du supermarché qui sont assez gros,
les fameux champignons de Paris,
champignons de Paris, etc. Mais la plupart des champignons ne sont pas aussi gros, donc ils sont souvent microscopiques et il faut donc l'utilisation du microscope a vraiment permis de se comprendre qu'il y avait beaucoup plus de diversité que simplement les champignons qu'on voit à la surface du sol. Il faut savoir que le champignon qu'on voit et qu'on mange, c'est en fait l'équivalent du fruit chez une plante.
D'accord.
Alors que le champignon lui-même, il est dans le sol sous forme de mycélium. On appelle ça un mycélium. Donc, c'est des longues cellules microscopiques dans le sol. Donc, il faut les étudier avec un microscope.
Et pour vous, l'IA, c'est une opportunité? Parce que est-ce que vous pensez qu'il y a toute une part d'inconnus toujours? Sinon, vous feriez pas de recherche. Hein, sinon, on aurait déjà bouclé les valises et c'est terminé. Mais est-ce que pour vous, l'IA, justement, c'est aussi une énorme opportunité pour accélérer la recherche sur les champignons?
Alors oui, d'une certaine manière, c'est vrai que c'est des outils que dans la recherche en général, on utilise de plus en plus. On utilise ça, par exemple, quand on a beaucoup de données. Donc, on essaye de prendre des données du monde entier pour faire, par exemple, une révision globale. On utilise l'intelligence artificielle pour, en fait, nous aider à faire le travail de regarder chaque publication, etc. Il y a aussi un petit peu des algorithmes qui ont été développés pour l'identification.
D'accord.
Donc, à partir de photographies. Le problème, toujours avec les champignons, c'est que on estime que dans le monde et probablement en Australie aussi, on a décrit seulement environ 10% des espèces.
D'accord.
Donc, l'algorithme de l'intelligence artificielle, il est fait pour donner une réponse. Donc, il a, disons, 10% de ces espèces en photographie. Et quand on lui montre une photographie d'un champignon, il va essayer de dire lequel de ces 10% de noms correspond à notre photographie. Donc, si on a une photo qui n'est pas dans la base de données, ça peut donner des résultats très bizarres.
D'accord. Si on parle un peu de vous maintenant, donc docteur, dites-nous vos titres exactement, parce que vous travaillez
Je travaille au Jardin Botanique, au Royal Botanic Gardens Victoria, donc Jardin Botanique de Melbourne, et je suis scientifique.
D'accord. Il y a un petit accent suisse derrière, non?
Oui, effectivement. Donc j'ai étudié la biologie à l'université de Neuchâtel en Suisse, et ensuite ma thèse de doctorat à l'université de Genève. Puis j'ai fait pendant une dizaine d'années ce que beaucoup de chercheurs font, c'est-à-dire faire des projets une année, deux ans, des projets ce qu'on appelle des post-docs,
ouais.
Donc des projets sans avoir un poste fixe. Donc j'étais aux États-Unis un petit peu, ce qui est un peu le passage obligé pour beaucoup de scientifiques. J'étais en Amérique latine aussi, en Argentine et au Mexique. Et je suis à Melbourne depuis bientôt 4 ans.
D'accord, ok. Et il y a quelque chose de spécifique avec les champignons australiens par rapport aux champignons à travers le monde, ou est-ce qu'il y a une certaine globalisation des champignons aussi?
Alors oui, c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle j'étais intéressée à venir en Australie, travailler au Jardin botanique, c'est qu'il y a une immense diversité de champignons en Australie, avec souvent des espèces qui sont endémiques et qui sont encore très peu connues. Donc, par rapport à, par exemple, si je travaille en Europe, être en Australie, pour moi, c'est comme Charles Darwin au XVIIIe siècle. Je fais beaucoup d'expéditions dans tout le pays pour récolter des échantillons, décrire des nouvelles espèces. Et il y a vraiment une diversité qui est énorme et qui est très particulière.
D'accord. Et ça vous a surpris ou vous le saviez? Vous dites que vous êtes venu spécifiquement pour ça, mais est-ce qu'il y a quand même eu des grosses surprises est-ce qu'il y a eu des découvertes, en fait?
Alors oui, je le savais. Il y a eu des études un peu à l'échelle globale qui montraient que probablement il y avait une grande diversité ici. Après, je dois dire que donc moi, mon expertise est de travailler sur les champignons mycorhizes, donc les champignons qui sont associés avec les plantes, qui reçoivent leur source de nourriture de la part de la plante et qui en échange aide la plante à acquérir des nutriments, à résister à certains stress, etc. Et ces champignons, dans les régions tempérées, donc en Europe, États-Unis et aussi en Amérique du Sud, mm-hmm. où j'ai travaillé, ils sont souvent très divers, mais ils s'associent à relativement peu d'espèces d'arbres
D'accord.
en général. Alors qu'ici, il y a une extrême diversité d'espèces d'arbres, plus une extrême diversité d'espèces de champignons. Et ça, c'était quelque chose d'assez inattendu, en fait, pour moi, en tout mm-hmm. cas.
La question que tout le monde doit vous poser, mais le changement climatique dans tout ça
Alors ça... oui, le changement climatique, oui, oui, c'est quelque chose dont on prend ça très au sérieux.
Oui, parce que ça attaque directement aussi les champignons.
Voilà. Alors, donc, les champignons, mycorhizes, on sait que beaucoup d'espèces aident les plantes à résister au stress hydrique, mm-hmm. mais évidemment, jusqu'à un certain point. Donc, c'est aussi des études qu'on fait pour savoir ce qu'on appelle la résilience des forêts au changement climatique. Les champignons participent à ça, mais seulement jusqu'à un certain point.
D'accord. Et ça peut être un outil, les champignons, parce qu'on travaille avec l'assistance des champignons pour pouvoir contrecarrer justement les méfaits du réchauffement climatique ou pas? Ça peut être un allié?
Alors oui, ça peut être un allié, effectivement. Il y a des projets de restauration maintenant, ou même certaines
nursery, c'est très bon, vous pouvez le dire. On parle en franglais ici. On va dire nursery, il n'y a pas de problème. Puis on va le laisser parce qu'on rigole.
Voilà, c'est parfait. Essayer d'utiliser, en fait, on peut faire des inoculations avec des sols qui viennent de certains environnements.
D'accord.
Pour essayer de donner à la plante, en fait, ça, ce qu'on appelle un inoculum de champignons mm-hmm. qui va l'aider à résister au changement climatique.
Vous recevez le public un petit peu au Royal Botanical Garden, vous expliquez aussi, ça fait pas, ou vous êtes purement dans la recherche?
Alors moi je suis dans le département de recherche,
D'accord.
mais on a un très grand département de communication et d'éducation qui reçoit des écoles, mm-hmm. qui reçoit du public et souvent on collabore avec eux. Donc, s'ils veulent faire ils ont leur propre guide, mm-hmm. mais avec qui on va collaborer pour les aider à développer un projet sur les champignons.
Parce que c'est intéressant, le champignon, si on revient sur le changement climatique et l'écologie, ils font partie intégrante, par exemple, de la décomposition du compost. C'est aussi un des pans de votre recherche, peut-être pour activer plus, pour mieux recycler. Et ça, c'est l'accent suisse, hein, c'est les rois du recyclage en Suisse.
Exactement. Alors, en fait, je pense que, évidemment, il y a les changements climatiques, évidemment, il y a la perte de l'habitat, mm-hmm. qui est comme tout pour tous les êtres vivants. Non humain, on va ouais. dire un grand problème, y compris en Australie. Mais je pense que une des choses qui fait que les champignons sont vraiment en danger de nos jours, c'est qu'il y a encore très peu de connaissances à leur sujet. Et donc, on sait qu'on perd des espèces de champignons tous les jours, mm-hmm. alors qu'on les a même pas découverts, en fait. Donc, disons qu'au jardin botanique, vraiment notre moteur de bataille, c'est vraiment d'arriver à essayer de connaître mieux cette diversité, savoir quels sont leurs rôles, justement, et aussi essayer de développer des outils pour les protéger, même si on les connaît pas.
D'accord,
par exemple, okay. On utilise beaucoup l'ADN de nos jours pour arriver à détecter toutes ces espèces inconnues dans le sol et voir comment elles réagissent. Par exemple, on a fait avec mes collègues du jardin botanique, botaniste, on a fait une expérience où en fait on a pris du sol de mm-hmm. différents habitats et on les a brûlés, on a fait un traitement comme si comme s'il y avait un feu.
D'accord.
Et ensuite, on a regardé comment des petites plantules de différentes espèces allaient pousser sur ces différents types de sols et à quels champignons résistaient au feu et pouvaient aider la plante à croître.
D'accord. Ah, c'est très, très, très intéressant, ça. J'ai une toute dernière question, mais vous mangez des champignons?
Oui, oui, oui. Les morilles, c'est mes préférés.
Et j'allais dire, vous avez des champignons préférés, mais vous les mangez avec un autre œil que peut-être moi, je peux manger les champignons, non?
Alors, il faut savoir qu'en Australie, malheureusement, la plupart des champignons comestibles, c'est des champignons exotiques.
Ouais, d'accord.
Donc, oui, j'aime beaucoup les manger, mais je vais pas beaucoup récolter des champignons dans la nature.
Vous-même, d'accord.
Moi-même, parce que j'aime bien aller dans les endroits où il y a de la végétation australienne.
D'accord. Donc... et peut-être une toute dernière question. question, mais c'est vrai que on sait qu'il y a quelques temps, il y a une nouvelle espèce d'abeille qui a été découverte, qui était absolument inconnue de tous les scientifiques au monde. Est-ce que pour vous, le Graal, ce serait de trouver des champignons complètement inconnus? Est-ce que ça fait aussi partie de l'excitation du travail?
Alors oui, et je dois dire que des champignons, des espèces nouvelles, on en découvre tous les jours, en fait.
Vous êtes blasé, alors.
On a même, aujourd'hui même, on a fait une publication. D'accord. Où on a même un nouveau genre de champignons.
C'est important, donc, ça?
Oui, alors c'est vraiment très important, comme je le disais, aussi pour la conservation, pour la communication, d'arriver à mettre des noms sur toutes ces espèces. Et c'est toujours excitant, mais c'est pas quelque chose de rare.
D'accord. Ok. Et ben, on va terminer là-dessus. Merci d'être passé nous voir et nous avoir un peu démocratisé le monde du champignon, peut-être ouvert les yeux un petit peu dessus. Merci.
Merci à vous.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et voilà, c'était Stromae et Pomme en duo qui nous interprétaient « Ma meilleure ennemie ». Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Notre invitée aujourd'hui, c'est Elodie Amiot. Bonjour Elodie.
Bonjour Marianne.
Votre histoire, elle est un peu particulière et je pense qu'elle va faire rêver bon nombre d'auditeurs. Vous allez nous la raconter. Alors Elodie, vous êtes française avec votre mari qui est français aussi. Vous êtes venue vous installer en Australie. Vous avez vécu 10 ans à Brisbane et jusqu'au Covid. Au Covid, vous avez décidé de tout bousculer et de vivre une vie nomade. Vous êtes partie sur les routes australiennes à bord de votre caravane vintage 1986. Et à l'époque, vous aviez 2 enfants. Vous êtes devenus des voyageurs à durée indéterminée pour vivre une vie hors des sentiers battus. Racontez-nous ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là. Et évidemment, on va arriver ensuite à quelle est votre vie aujourd'hui. Mais déjà, racontez-nous ce qui s'est passé dans vos têtes en 2020.
Eh bien, 2020, ça a été une année un peu particulière parce que, étant entrepreneur, comme beaucoup de gens, on a été mis au ralenti du jour au lendemain d'un point de vue professionnel. Comme tout le monde entier, on s'est retrouvés confinés. Et là où tout le monde s'inquiétait pour nous d'un point de vue financier parce qu'on n'avait plus du tout aucune rentrée d'argent, finalement, on a adoré le confinement. Le confinement en famille à Brisbane, ça a été pour nous un déclic de se dire que finalement, si on était entrepreneur aujourd'hui, c'était pour avoir une liberté qu'on était en train de perdre dans la charge de travail qu'on s'infligeait tout seul dans nos sociétés, et que ce temps en famille à profiter tous les quatre de ces journées entières ensemble, bah finalement, c'est ça dont on avait envie. Et rapidement, pendant le confinement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas envie de retourner à notre vie précédente, à courir partout, à déposer les enfants très tôt le matin ou à aller les chercher tard l'après-midi. Et du coup, rapidement, en quelques semaines, on a décidé qu'il fallait qu'on change les choses.
Donc vous avez acheté cette caravane, vous êtes parti sur les routes. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, vous alternez. Donc vous faites 6 mois en Australie et 6 mois à l'étranger. Là, en l'occurrence, vous êtes au Mexique. Cette nouvelle vie, donc, qui dure déjà depuis 5 ans maintenant, est-ce que vous avez fini par vous en lasser ou au contraire, est-ce que c'est encore mieux que dans vos projets ?
Au contraire, on n'arrive plus à s'arrêter. À la base, quand on était parti, c'était un projet juste de quelques mois. C'était un projet de transition. On avait cette caravane dans le jardin pour nos vacances, nos week-ends que Guillaume, mon mari, est en train de finir de rénover parce que du coup, c'est une vieille caravane. Donc, il était en train de finir la rénovation intérieure. Et on s'est dit, autant avant d'être complètement à zéro financièrement et de vider toutes nos économies, peut-être qu'il est temps de tout vendre et puis de se séparer de tout ce qu'on avait d'un point de vue matériel pour diminuer nos charges mensuelles au minimum. Et on est parti, on a décidé de partir avec cette caravane juste pour une escapade de quelques semaines, de quelques mois. Et rapidement, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus envie de rentrer, qu'on était en train de trouver un nouveau rythme familial, un nouveau mode de vie qui nous plaisait. Et puis, les mois ont passé, et puis les années. Et finalement, tout le monde a grandi dans ce mode de vie-là. La famille s'est agrandie avec l'arrivée d'un troisième bébé il y a 2 ans. Et même là, on s'est posé mille et une questions sur est-ce qu'il ne serait pas temps de retourner dans une maison. Et finalement, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est qu'on a vendu notre petite caravane pour en acheter une plus grande. Et juste plus adapté à la famille de 5. Donc nous, on ne s'en lasse pas, on l'adapte, le rythme change. Le fait de voyager aujourd'hui à l'étranger la moitié de l'année permet de ne pas être en caravane non plus toute l'année autour de l'Australie. On a quasiment fait le tour, quasiment 2 fois du pays déjà. Donc non, on ne s'en lasse pas, on s'adapte, on évolue, mais on ne s'en lasse pas.
Comment on fait pour faire un suivi de grossesse et un accouchement quand on vit en caravane?
Alors ça, c'est la beauté de l'Australie. Je pense que c'est vraiment pas possible dans tous les pays. Les Français nous regardent souvent avec des gros yeux, plein de questions. Je suis tombée enceinte pendant un voyage de 6 mois en Afrique. J'ai fait un premier trimestre un peu chaotique en Afrique et il était vraiment temps de rentrer en Australie. La caravane nous attendait à Perth. Donc, je suis arrivée à Perth avec Guillaume et les enfants enceintes de quasiment 4 mois. Et ensuite, on a décidé de se rapprocher de Brisbane parce que Brisbane, c'était là où on avait notre famille de cœur, nos amis, toute cette vie qu'on s'était construite pendant 10 ans de vie traditionnelle. Et du coup, on a roulé, ça nous a mis quasiment 3 mois, on a roulé entre Perth et Brisbane. Et la beauté de l'Australie, c'est que tu t'arrêtes dans n'importe quelle ville. On est australien aujourd'hui avec la citoyenneté, on a la Medicare, donc on a pu prendre des rendez-vous dans n'importe quel hôpital public ou dans des centres d'échographie et on a pu faire ce suivi de grossesse tout du long. Le dossier de grossesse a été construit à Perth. Il est passé par tous les hôpitaux entre Adélaïde, Melbourne et Brisbane jusqu'à arriver à Bundaberg où on avait décidé d'avoir le bébé.
Depuis que vous êtes partie, vous avez pas mal développé vos réseaux sociaux, vous faisiez notamment des lives hebdomadaires. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les gens vous regardent avec des étoiles dans les yeux?
Alors, c'était vraiment le cas en 2020, parce qu'on est parti en plus dans une période de confinement mondial où la majorité des gens étaient bloqués. En Australie, on a été bloqués, mais on avait encore la possibilité de circuler dans le pays. Donc, les premières années, les gens s'intéressaient à nous sur les réseaux comme vraiment un nouveau mode de vie. Un mode de vie qui ressemblait pas trop au leur à cette époque-là. Et au fur et à mesure des années, on voit quand même cette communauté changer dans le sens où les familles voyagent de plus en plus. Mais vraiment. Et du coup, notre communauté étant essentiellement française aujourd'hui, c'était pas le cas au début, mais clairement aujourd'hui, elle est essentiellement française, essentiellement des familles, et énormément de familles qui voyagent ou qui partent autour du monde ou qui partent en longues vacances. Et du coup, à qui on a donné envie à certains de venir jusqu'au bout du monde, jusqu'en Australie et de venir découvrir ce pays et de vivre à leur tour un road trip en camping-car ou en van sur 1 mois ou sur 3 mois et de venir découvrir le pays des kangourous.
Il y a quand même une immense différence entre faire ça sur 1 mois, 3 mois et faire ça depuis plus de 5 ans. J'imagine que les enfants sont scolarisés à domicile, si je puis dire, homeschooling. Comment ça se passe?
Ah bah c'est sûr que c'est une grosse différence. Après, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir mener ce mode de vie parce qu'il y a quand même toujours la question financière qui revient et qui est normale. C'est comment financer ça. Donc, si les gens n'ont pas un travail adapté ou ne peuvent pas changer de carrière du jour au lendemain pour passer entrepreneur ou avec un travail en ligne, c'est vrai que du coup, le mode de vie nomade à long terme, sans date de retour, il n'est pas adapté à tout le monde. Et les enfants, oui, sont en éducation à la maison. Bah, depuis le Covid, en fait, depuis le confinement, ils ne sont jamais retournés à l'école. Et depuis 5 ans, bah, écoute, ils grandissent comme ça. Ils ont acquis une autonomie incroyable. Ils s'adaptent beaucoup et surtout, ils adorent ça. Ils apprennent, ils n'ont aucun retard sur leur apprentissage et ils n'ont aucune envie de retourner à l'école.
Vous avez évoqué la question des finances, de comment on paye on peut même plus dire un voyage, c'est vraiment un mode de vie comme ça. Donc comment vous faites tous les deux?
La première chose, c'est on a toujours été entrepreneur. Donc, mars 2020, ça a vraiment été, ça a fait partie du déclic. C'était ce monde d'entrepreneuriat dans lequel on était. Donc, on a perdu une entreprise pendant le Covid. On en a vendu une et puis on en a gardé une troisième, l'entreprise de Guillaume, mon mari, qui va bientôt avoir 10 ans et qui, l'entreprise va bientôt avoir 10 ans et qui
Oui, pas Guillaume.
continue. Et qui continue de nous financer aujourd'hui. Donc lui, il travaille en ligne dans l'industrie du pneumatique. Donc voilà, il continue de faire ça et la même chose qu'il fait depuis 10 ans. Et puis moi, de mon côté, j'ai créé une agence de voyage il y a 2 ans et demi maintenant, et justement pour accompagner les familles françaises pour organiser leur voyage, leur road trip sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc c'est aujourd'hui, c'est ça qui nous rémunère. C'est la beauté de notre profession, c'est de pouvoir être entrepreneur et surtout de travailler en ligne de partout et à n'importe quelle heure. Donc voilà, ça nous permet d'avoir des revenus. Et surtout, ce mode de vie sur plusieurs années, il a permis de diminuer énormément les dépenses. Parce que n'étant plus propriétaire de maison, n'ayant plus de charges mensuelles à payer, il y a des années où autour de l'Australie, dans notre caravane, on pouvait vivre avec trois fois rien pendant le mois, juste les frais d'essence et les frais de course. Pour manger. Et du coup, ça nous permettait de mettre beaucoup d'argent de côté, ce qui nous a permis de financer nos voyages ensuite à l'étranger et tout ça. Donc, il y a vraiment le côté travailler pour nous en ligne et de l'autre côté, de maîtriser à 100% nos charges et nos dépenses.
Là, vous allez revenir en Australie à la fin de l'année. C'est un retour pour la moitié de l'année avant de repartir à l'étranger ou c'est un retour définitif et la fin de la vie nomade?
Ah non, c'est pas du tout la fin de la vie nomade. En tout cas, c'est pas le deal familial pour le moment. On rentre du Mexique à la fin de l'année parce qu'on a promis aux garçons de fêter Noël en Australie. L'année dernière, les garçons devenant adolescents nous ont demandé d'avoir une base quelque part parce que autant ils n'avaient pas envie de retourner à l'école, autant ils adorent cette vie familiale et cette vie de voyage, mais la vie sociale commençait à leur manquer. Ils se font des copains partout. Tout le temps, sauf que l'année dernière, ils nous ont bien formulé que c'était des copains qui ne restaient pas. C'est des copains qui ne revoyaient pas ou pas souvent. Donc le fait d'avoir une base quelque part leur permettait, même si on part voyager quelques mois, de revenir entre deux voyages au même endroit et de retrouver les mêmes copains et les mêmes clubs de sport. Donc l'année dernière, on a acheté un tout petit appartement au centre de Cairns pour avoir une base à Cairns. Et là, le deal, c'est que on rentre à Cairns pour quelques mois. On leur a promis de rentrer un peu plus longtemps que d'habitude. D'habitude, on rentre 2 mois ou 3 mois maximum. Là, on leur a promis de rester un peu plus longtemps que 3 mois, mais avec déjà l'idée dans la tête de préparer le prochain voyage.
Vous savez où est-ce qu'il va être?
On ne sait pas parce qu'on est très dernière minute. On prend les décisions vraiment suivant les finances, le budget, l'envie, la météo, mais on a déjà des destinations qu'on a envie de faire ou de refaire courant l'année prochaine. Mais pour l'instant, on va juste se laisser porter et puis on verra au moment voulu.
Et la fin de l'année pour vous, Elodie, c'est pas seulement le retour en Australie pour quelques mois, c'est aussi la parution de votre livre. Et il sort le 3 décembre, si je dis pas de bêtises, et une date qui dit beaucoup puisque c'est également le jour de vos 40 ans. Pourquoi c'était important pour vous de raconter votre histoire dans un livre?
Alors déjà, j'ai toujours adoré écrire. J'ai toujours écrit, d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours griffonné des cahiers, des poèmes, des lettres. Ça a vraiment toujours fait partie de ma façon de faire, de communiquer ou de me sentir mieux. Et puis, là, il y a quelques années, j'ai perdu mon grand-père. Et en 2021, on est rentré en France quelques mois pour juste être présent pour ma grand-mère paternelle. Et le fait de passer plusieurs mois avec ma grand-mère, j'ai réalisé que la transmission familiale, la transmission intergénérationnelle, elle marchait si les générations précédentes laissaient des traces. Et c'était le cas avec ma grand-mère. J'ai passé énormément de temps avec elle, à discuter, à lire ses petits carnets, à partager quelques secrets. Et je me suis dit, mais si Je mets pas tout ça à l'écrit quelque part. Le jour où ma grand-mère elle part, on va perdre tous ces souvenirs-là et toutes ces histoires qu'elle raconte, bien qu'elle a écrit quelques petits bouts, quelques brides par-ci par-là. Et du coup, l'idée a commencé à germer de dire, mais on mène cette vie un peu spéciale, très spéciale depuis plusieurs années, mais qu'est-ce qui va rester de cette vie auprès de nos enfants et aux enfants de nos enfants et ainsi de suite, si jamais nous, on laisse pas de traces? Parce que ce mode de vie, c'est certes une vie nomade, mais c'est aussi une vie qui est basée sur des choix, sur des valeurs, sur un mode de pensée particulier qu'on a avec Guillaume et sur tout ce qu'on a mis en œuvre pour acquérir la liberté qu'on a aujourd'hui. Et l'idée est venue de commencer à écrire un livre pour les garçons. Et l'année dernière, le hasard a fait que quand j'ai commencé à écrire ces premiers écrits qui étaient à la base juste pour mes fils, une maison d'édition m'a contactée en me proposant un projet de livre. Donc du coup, ça a complètement germé. J'ai mis un peu plus d'un an à aboutir ce projet, avec l'idée aujourd'hui que certes, je laisse une trace pour mes fils, mais aussi je laisse peut-être une trace pour les gens qui ont envie de s'inspirer, de comprendre et de, à leur tour, réaliser leurs rêves et se replacer au cœur de leur vie pour vivre leur bonheur au quotidien.
Bon, eh bien, pour nos auditeurs qui ont envie de lire ce livre, il s'appelle Tracer sa route, vivre autrement en famille. Il est déjà disponible en précommande. Merci beaucoup, Elodie.
Merci, Marianne.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'est tous ces écrous, c'est pas moi qui sais.
Et voilà, c'était Stéphane Escher qui nous interprétait Autour de ton cou. Stéphane Escher, notre Suisse préféré sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français en ce jour de Noël. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission, une émission spéciale consacrée à Noël. Encore une fois, joyeux Noël et à très bientôt sur les ondes de Radio SBS. Bel après-midi, à bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.